Rebonjour, j'espère que ça fonctionne maintenant. Il semble qu'il y avait un problème de son tout à l'heure. Donc, juste me dire si vous m'entendez maintenant. Est-ce que ça fonctionne? Rebonjour à ma belle-mère. Rebonjour au frère Jean-Gilbert et la sœur Rosanie. Rebonjour à la belle-sœur si elle est connectée avec ma belle-mère. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Donc, juste me dire, s'il vous plaît, si le son fonctionne, puisqu'on vient d'avoir quelques petits pépins techniques dans la première diffusion. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche. Merci, Natacha. Bien le bonjour à toi, Natacha, à Indirène et à la petite famille. Donc, désolé pour ce contretemps, on est toujours en avance. C'est ça qui est bien du fait qu'on se connecte vers 18 et non à 30, ce qui nous permet ainsi un petit raté de pouvoir essayer de relancer la machine, ce qui a été fait. Donc, bonjour la Lande, bonjour Landry, que Dieu vous bénisse, bonjour à ma mère, à mon père, bonjour Sylvia, God bless you. D'autres. Sampawende, que Dieu te bénisse, merci. Bonjour Pascal. Alors je disais tout à l'heure que dans la première diffusion que j'ai arrêtée, que j'ai effacée, puisqu'elle ne fonctionnait pas, le son ne fonctionnait pas. Donc je disais qu'on va prier tout à l'heure pour Haïti qui vit encore des heures très sombres aujourd'hui. Avec l'assassinat du président. Une fois de trop, encore, malheureusement. Donc, on va prier pour nos frères, nos sœurs qui sont en Haïti. Que Dieu les protège et les garde dans ce qui semble être, bien entendu, un coup d'État. Donc j'offre tous mes sentiments les plus sincères à tous nos frères et nos sœurs qui représentent la grande diaspora haïtienne. Je sais que vous êtes nombreux et comme vous savez, mon épouse est d'origine haïtienne, donc la famille est toujours à l'affût de ce qui se passe là-bas. Donc, prions ce matin pour Haïti. Bonjour Tina, que Dieu te bénisse. Bonjour Denise, bonjour Gérard, soyez bénis. Donc désolé pour ceux qui se sont connectés en première diffusion, il y avait un petit problème technique qui a fait que j'ai dû relancer le système. Bonjour à la sœur Argelia. J'espère qu'en rebootant, en redémarrant le système, on n'aura pas perdu trop de gens. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. J'essaie de voir si j'ai oublié de saluer quelqu'un. Je remonte. Bonjour à la sœur Charlotte. Il se pourrait que je ne vois pas tout le monde, mais j'espère que ceux que je vois, je vous ai tous salués. Bonjour, pasteur David. Bonjour Guy, sois béni. Bonjour Rachel. Salut les sœurs qui sont avec toi. La sœur Ocilia, bien entendu, puisque elle m'envoie un petit mot. La sœur Chantal, la sœur Mona. Bonjour Rosie, que Dieu vous bénisse. Bonjour Denise, cette fois-ci Denise Gaudreau de Laval, Laval-Ouest même. Soyez bénie, ma sœur. On attend juste quelques instants parce que, comme on l'a dit, il y a eu un petit bris technique tout à l'heure qui a nécessité donc un redémarrage du système. Donc, on va juste attendre quelques instants avant de débuter ce matin. Et ce faisant, je n'ai pas allumé le projecteur. Bonjour à la sœur Samek. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va prier en début de rencontre, non seulement pour présenter ce moment entre les mains du Seigneur, mais aussi pour lui demander qu'il intervienne en Haïti, puisqu'il y a de graves et mauvaises nouvelles qui sont apparues sur les fils de presse il y a déjà environ 1 heure ou 2, où on nous annonçait l'assassinat du président haïtien. Bonjour Babette, bonjour Andreas. Profitez-en bien, Rosie. Ici, il fait un peu plus frais aujourd'hui, ce qui ne me déplaît pas, mais il fait un peu plus frais aujourd'hui. Alors, on va prier. Et puis, par la suite, donc, on va prendre la parole pour ce matin. Mais avant ça, on va prier donc pour Haïti. Et une fois qu'on aura prié pour Haïti, on va passer à notre temps d'étude pour aujourd'hui. Alors Seigneur, nous approchons de toi en cette heure que nous savons sombre pour un pays qui nous est cher parce que plusieurs de nos frères, de nos sœurs, au sein de la congrégation locale que nous sommes, viennent d'Haïti. Plusieurs, Seigneur, encore de nombreux parents qui y vivent et assurément une partie de leur cœur, Seigneur, qui est encore établie dans cette terre, Seigneur, qui les a vus naître ou qui a vu naître leurs parents. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes une fois de plus, malheureusement, secoués par une annonce terrible, l'assassinat, Seigneur, du président de la République. Et on est inquiet pour nos frères, pour la situation qui avait déjà cours en Haïti, qui était particulièrement difficile pour tous et chacun, mais aussi, Seigneur, plus particulièrement pour nos frères et nos sœurs en la foi. Aujourd'hui, Seigneur, comme on l'a fait à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, on s'unit de façon spécifique afin d'intercéder pour cette nation, pour ce pays. Seigneur, le sang a trop coulé. Le sang a trop souvent coulé. Les larmes, Seigneur, ont ruisselé sur le visage, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs, encore trop souvent, en raison, Seigneur, de tout ce qui se passait sur cette île, sur tout ce qui se passait dans cette nation. Ce matin, Seigneur, on implore ta grâce. On implore ta grâce pour ce pays, pour cette nation, pour ce peuple qui est une fois de trop secoué. Et nous te demandons, Seigneur, étends ta main et apporte le calme, apporte la paix. Seigneur, la violence n'est en aucun cas une solution. La violence, Seigneur, en dépit des circonstances difficiles qui peuvent être traversées par une nation, la violence n'est jamais la réponse. Du moins, elle n'est pas celle que toi, tu nous enseignes. Alors nous prions, Seigneur, que tu puisses consoler nos frères, nos sœurs, que tu puisses les sécuriser, les apaiser, et que tu puisses pourvoir, Seigneur, la protection dont ils ont besoin. Que le calme, Seigneur, s'empare de la nation haïtienne, que ta paix, Seigneur, y règne en dépit des œuvres, des plans et des stratagèmes de l'ennemi. Nous déclarons, Seigneur, comme échouant les plans et les desseins de l'ennemi. Nous les contrecarrons par l'action même de ton esprit. Et nous te demandons, Seigneur, fais ce qui doit être fait dans ce pays. Fais ce qui doit être fait auprès des autorités de cette nation. Fais ce qui doit être fait auprès de chacune des factions qui sont représentées, Seigneur, à la direction de ce pays. Et nous te demandons, Seigneur, que ta grâce soit accordée à nos frères, nos sœurs d'origine haïtienne. À travers ces moments, Seigneur, d'inquiétude, sois leur réconfort, sois leur muraille, sois, Seigneur, la haute retraite dans laquelle, Seigneur, ou en laquelle ils peuvent se confier. Et d'avance, nous te disons merci pour ce que tu fais. Prends contrôle, Seigneur, maintenant de cet enseignement qui va être donné ce matin. Permets-nous de saisir ta pensée. Permets-nous de recevoir favorablement ta parole, parole qui a été préparée de toute éternité pour nous, pour cette matinée spécifique avec les besoins qui sont les nôtres. Alors parle et ne retiens point. Transforme ce qui doit être transformé. Arrache même ce qui doit être arraché de nos vies. Afin, Seigneur, que ce soit en parole, en action ou en intention, que toutes nos vies, Seigneur, cadre avec ton plan, avec tes desseins et avec ta parfaite volonté. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bienvenue à tous. Et nous lisons ce matin le texte que nous avons débuté dimanche comme étude avec deux thématiques. Première thématique, ce que je donne à Dieu. Deuxième thématique, comment Dieu qualifie ce que je lui donne. Et on prend pour base de réflexion le texte dans Luc au chapitre 21, du verset 1 au verset 4. Luc 21, du verset 1 au verset 4, qui nous dit: Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Et aujourd'hui, on étudie donc le verset 3, que je répète deux fois pour vous. Et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Je répète, et il dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Quatre ou cinq choses qu'on va faire ressortir aujourd'hui en allant chronologiquement avec les termes qui sont utilisés dans notre texte. Donc les deux premiers mots qu'on peut étudier ce matin. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Donc dire en vérité. Dire, le verbe dire, c'est le terme lego en grec. Lego. Donc dire, lego. Lego. Qui parle d'affirmer, mais ou de déclarer une chose, mais qui a aussi une autre connotation, qui tourne vers tout ce qui est didactif, donc tout ce qui est enseignement. L'ego plutôt va vouloir dire enseigner, pointer vers quelque part au moyen de paroles, appeler de son nom une chose. Alors, c'est comme si on va déclarer des grandes vérités. Donc, le terme l'ego en soi nous parle déjà d'une déclaration importante, d'une déclaration d'une vérité et d'un enseignement véridique. Mais à cela, il va ajouter, je vous le dis en vérité. Vérité, c'est un terme qu'on a déjà étudié à quelques reprises, le terme aletheos, aletheos, A-L-E-T-H-O-S. Je répète, aletheos, vérité, A-L-E-T-H-O-S, toujours pour ceux qui prennent des notes, qui nous parle donc d'une chose qui est véridique, qui est véritable, une chose qui est certaine, qui est assurée et qui est évidente. Donc c'est comme si Jésus va dire, voilà, je vais vous déclarer une grande vérité, une vérité qui est indéniable. Vous ne pourrez pas la contester, vous ne pourrez pas vous y opposer. Ce qui est intéressant, c'est que cette vérité, elle est concernant cette pauvre veuve qu'on a dit hier comme ayant très peu de moyens, très peu de ressources, abandonnée de tous, laissée pour contre de la société, et malgré tout, Dieu va se servir de cette femme et va se servir du fait qu'elle donne à l'œuvre de Dieu. On se rappelle que les offrandes qu'on amenait vers le temple étaient des offrandes qui étaient pour le service dans le temple et pour le service des synagogues qui pouvaient y avoir dans la nation qui était plus petite, et de surcroît à cela, qui était aussi un pécule qu'on ramassait pour aider à soutenir la veuve, l'orphelin, l'étranger, l'indigent. Donc ici, Dieu va se servir de ce que cette veuve pauvre, délaissée, abandonnée, de ce qu'elle amène à Dieu comme un exemple pour les autres. Il est en train de dire, je vous le dis en vérité, je vous enseigne une grande vérité, cette veuve, cette pauvre veuve a donné plus que les autres. Alors le premier point intéressant pour vous et pour moi, qui suscite en même temps une question, à savoir, Dieu peut-il se servir de ce que je donne comme un exemple pour les autres? Si Dieu prenait ce que toi tu lui offres, et là encore, on le répète à tous les jours, on ne parle pas strictement d'une question d'argent. Ça peut être une question d'argent, mais ce n'est pas strictement une question d'argent. Est-ce que Dieu peut se servir de ce que tu donnes en temps, en service, en qualité de service, en implication, en talent, en habileté et en argent, en matériel? Dieu peut-il se servir de cela comme un exemple pour les autres? Regardez, ici, il prend le cas d'une pauvre veuve, dont on ne connaît pas l'âge, mais d'une dame qui est maintenant seule, qui n'a pas de moyens, et Dieu la prend comme un exemple pour ses disciples, pour l'Église qui l'entoure et qui est en train de naître à l'époque. Mais pour nous aussi, qui sommes 2000 ans plus tard en train d'étudier ce même texte et en train de voir encore une fois l'exemple de cette femme, peux-tu être un exemple que Dieu va vouloir afficher? Ce que tu donnes est non seulement une contribution à l'œuvre de Dieu, et non seulement un ajout à l'œuvre de Dieu. Ce que tu donnes est non seulement quelque chose qui favorise la progression du royaume de Dieu, mais ce que tu donnes peut aussi être un exemple pour ceux qui t'entourent. Assurément, chacun d'entre nous sommes un exemple pour quelqu'un, que ce soit parce qu'on est parent et qu'on a des enfants, que ce soit parce qu'on vient de témoigner à quelqu'un de Jésus et on est en train d'amener cette personne vers le Seigneur, que ce soit parce que j'ai un rôle de leadership dans l'Église ou dans la société. On a tous quelque part un rôle d'exemple à donner pour ceux qui nous entourent? Cet exemple va-t-il donner une bonne piste, une bonne orientation à ceux qui nous regardent, ou cet exemple va-t-il être évité? Je dis régulièrement, lorsque je parle sur les exemples que les gens peuvent être dans ma vie, je dis de certaines personnes, j'ai appris quoi faire. Il y a des personnes qui ont vécu auprès de moi, qui m'ont précédé dans la foi chrétienne et dans le ministère, que ce soit parce que j'ai lu des livres ou que ce soit parce que j'ai côtoyé ces personnes. Et certaines d'entre elles sont des exemples dans ce que je dois faire. De la part de d'autres personnes, j'ai appris aussi quoi ne pas faire. Parce que leur vie n'était pas celle qu'elle devait être, parce que l'exemple qu'ils donnaient ou qu'elles donnaient n'était pas celui qui devait être suivi. Donc, de certaines personnes, j'ai appris quoi faire et comment suivre leur modèle, et de d'autres personnes, j'ai appris quoi ne pas faire. Et assurément, entre le premier groupe et le deuxième groupe, il y a un bon groupe, il y a un mauvais groupe. Et peut-être qu'il se peut aussi que nous naviguions entre les deux exemples. À l'occasion, je suis un bon exemple à suivre, à l'occasion, je suis un mauvais exemple à suivre. Mais dans le fait de donner à Dieu, dans le fait de ce que je donne à Dieu, suis-je un bon exemple qui va motiver les autres générations et mes contemporains qui sont à mes côtés, ou suis-je un exemple que Dieu va plutôt donner pour dire « ne suivez pas ces personnes ». Regardez simplement, concernant David, on va nous montrer comment David a accumulé un tas de choses qu'il a données pour la construction posthume du temple de Dieu. Le temple de l'Éternel a été bâti, oui, avec des choses que David a fournies. Il a été un exemple pour que le peuple aussi fournisse et contribue à la construction du temple, mais lui ne l'a pas construit. Et aujourd'hui, on parle encore de ce que David a donné pour la construction du temple. En contrepartie, on va avoir l'exemple d'Ananias et Saphira, qui, eux, sont des exemples à ne pas suivre quand nous donnons à Dieu, où cet homme, cette femme, ce couple va prétendre donner quelque chose à Dieu qu'ils n'ont pas donné, et ainsi, ils mentent non seulement aux disciples, mais tentent de mentir à Dieu. Et à Dieu, on ne peut pas mentir. Et c'est là qu'ils ont été châtiés, non pas sur le fait qu'ils ont donné moins que ce qu'ils auraient pu donner, mais qu'ils ont donné moins que de ce qu'ils prétendaient donner. Et certains d'entre nous, on a ce problème-là. On a aussi la prétention de faire bien des choses alors qu'on fait peu, la prétention de donner bien des choses à Dieu alors qu'on lui donne peu, la prétention de donner de la qualité à Dieu alors qu'on lui donne peu. On peut mentir à des hommes, et il n'y a que très peu de conséquences. Mais mentir à Dieu, impliquer Dieu dans notre mensonge, c'est très dangereux. Alors, David est un exemple à suivre dans ce qu'on donne. Ananias et Saphira sont des exemples à ne pas suivre. La veuve dont on ne connaît pas le nom, dont on ne connaît pas l'histoire, ici se présente un matin pour donner son offrande, 2000 ans et plus tard, nous sommes en train de parler d'elle comme un exemple, Jésus l'ayant cité en exemple de quelqu'un qui donnait et qui donnait avec abondance. Donc Dieu peut-il se servir de ce que tu lui donnes comme un exemple positif, ou doit-il se servir de ce que tu donnes comme un exemple à ne pas suivre? Deuxième section, encore une fois, la pauvre veuve. Un pauvre qu'on a vu hier, le terme ptokos. En fait, hier, c'était le terme pénikros. Ce matin, c'est le terme ptokos qui est utilisé dans cette deuxième phrase. Et ptokos veut dire qui est réduit à la mendicité, qui est destitué de toute richesse, qui est en manque de tout. Donc, pauvre, ptokos, un deuxième terme grec pour le terme pauvre. Pour ceux qui n'ont pas le premier terme, vous pourrez aller voir l'étude d'hier matin. Donc, ptokos, j'appelle pour vous P-T-O-C-H-O-S, P-T-O-C-H-O-S, ptokos, pauvre, qui veut dire réduit à la mendicité. Donc, cette femme n'était pas simplement que dans un état un peu pauvre. Elle était réduite dans un état où, si elle avait dû aller chercher de l'argent, ça aurait été de la mendicité. Il aurait fallu qu'elle demande la pitié des uns et des autres. Destituée de toute richesse et en manque de tout. Le terme « veuve », toujours le même terme qu'hier, cette fois-ci le terme « kera », C-H-E-R-A, qui va nous dire une veuve ou une femme qui survit à la mort de son mari. Cette femme, dans la condition probablement la pire qu'une citoyenne d'Israël pouvait rencontrer. Je vous ai déjà expliqué que la coutume à l'époque, c'était que si mon mari meurt, si le mari meurt de la veuve, en fait, tout l'avoir du mari est rapatrié dans la famille de l'époux, et l'épouse est donc destituée, la veuve est donc destituée de tout ce qu'elle avait auprès de son mari. Même si elle a contribué avec son mari à la richesse familiale, ça lui est retiré pour ramener dans la famille du mari, et elle se retrouve donc dans la détresse la plus profonde. Et malgré tout, Dieu va prendre en exemple cette dame et le fait qu'elle donne malgré sa précarité. Ça veut donc dire que Dieu peut me prendre en exemple, même dans la condition la plus précaire qui soit. Parfois, on regarde ce que nous avons, on regarde ce que nous sommes capables de faire, on regarde nos habiletés, on les considère comme étant très limitées, on regarde nos ressources et on se dit qu'on n'a rien entre les mains, et pourtant, Dieu peut nous prendre en exemple si nous appliquons la foi, si effectivement nous exerçons la foi. Je mentionnais dimanche l'exemple de cette femme à qui le prophète va dire « Fais-moi cuire un gâteau » et elle va dire « Non, mais je n'ai qu'un peu d'huile, je n'ai qu'un peu de farine, on va manger mon fils et moi ce dernier bout de pain et après ça on va mourir ». Et le serviteur de Dieu va lui dire, « Tu as tout à fait raison, qu'il ne te reste pratiquement rien. Fais comme tu as dit, mais avant cela, fais-moi un morceau de gâteau. » Elle rentre à la maison et elle a le choix. Dans le côté précaire de sa situation, elle peut soit effectivement manger ce dernier bout de gâteau, ce dernier bout de pain entre elle et son fils, et mourir, comme elle l'a annoncé, ou effectivement prendre le risque, faire le pas de foi, de préparer un gâteau, de l'amener à l'homme de Dieu et de voir ce qui va se passer. Et elle est encore un exemple aujourd'hui de ce que Dieu prend une femme avec pratiquement rien, elle aussi une veuve, et que Dieu va utiliser pour fortifier la foi, en tout cas fortifier la mienne, combien de siècles et de siècles après que cette histoire se soit passée. Donc Dieu peut prendre ta situation, Dieu peut prendre ton exemple, même dans une situation la plus précaire qui soit, pour être un enseignement pour d'autres autour de toi. Donc Dieu peut-il te prendre en exemple? Et est-ce que tu comprends qu'il peut te prendre en exemple même lorsque tes ressources sont minimes et dépassées? Dieu veut t'utiliser, mon frère. Dieu veut t'utiliser, ma sœur. Et même dans cette situation difficile dans laquelle tu peux être, Dieu fait en sorte que tu serves à l'enseignement de quelqu'un. Alors ne lâche pas, mon frère, n'abandonne pas. Dieu veut se servir de toi. Troisième point ce matin, le terme « maître ». Elle va mettre plus que tous les autres. Donc, elle va apporter son offrande qu'elle va déposer, comme on l'avait dit, 2 pièces de brasse, 2 pièces qui représentent 1% du salaire quotidien d'un ouvrier moyen. Et elle va arriver avec ces 2 pièces qui sont la seule chose qu'elle a, qui sont son avoir pour manger et pour vivre. Et malgré tout, ces 2 pièces, elle va les déposer dans les cornes et vont tomber dans le réceptacle, et elle va donc donner cette offrande. Le verbe « mettre », mettre l'offrande. Mettre, c'est le terme ballot, B-A-L-L-O. Mettre, ballot, B-A-L-L-O, qui veut dire disperser une chose, verser une chose, et plus encore qui veut dire répandre une chose sans se préoccuper. C'est comme si cette femme, dans l'utilisation de ce terme ballot, va mettre l'offrande sans se préoccuper. Ici, l'enseignement pour toi et pour moi et la question inhérente est, est-ce que je donne sans attente de rétribution, d'une part, et sans préoccupation par rapport à mon avenir ou à mon devenir? Cette femme va donner, sachant qu'après ça, il ne lui reste plus rien, ne sachant pas non plus d'où viendra son prochain repas. Mais elle a donné malgré tout. Quand toi, tu donnes à Dieu, est-ce que tu donnes à Dieu pour recevoir en retour? Est-ce que ton don vers Dieu est un investissement que tu espères rapide et avec un retour important? Ou est-ce que tu donnes tout simplement pour donner à Dieu sans attendre quoi que ce soit en retour? C'est toujours pénible d'avoir le sentiment que quelqu'un te donne quelque chose, mais en retour, il attend l'appareil. Vous savez, ce genre de personne qui vient te donner un cadeau, mais tu as le sentiment que ce cadeau n'est pas nécessairement gratuit dans son intention. Il vient, t'apporte un beau cadeau en espérant que dans 3 semaines, 1 mois, lorsque c'est son anniversaire à lui, tu auras la pensée de lui donner l'appareil et de lui donner un retour sur ce qu'il t'a déjà préalablement donné. C'est toujours frustrant de se retrouver face à une telle situation. C'est comme si on nous met un peu un couteau sous la gorge en disant « Je te donne, mais tu es obligé de me donner en retour. » Est-ce que c'est comme ça qu'on veut se comporter avec Dieu? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut interagir avec Dieu? Est-ce que c'est vraiment l'attitude que nous voulons développer avec le Seigneur en disant « Moi, je donne tout simplement en sachant que toi, tu dois me donner en retour. » Est-ce vraiment comme cela que nous voulons opérer? Ou voulons-nous opérer avec Dieu en disant « Seigneur, je te donne, mais tu as déjà tant fait pour moi et je te donne simplement parce que je t'aime. » Il y a une différence dans la façon dont on donne lorsqu'on donne pour recevoir en retour et lorsqu'on donne sans s'attendre à quoi que ce soit en retour. Je vous assure, notre Seigneur est bon. Celui qui sème récolte. Assurément, quand on investit dans le royaume de Dieu, il y a un retour. Ce retour peut être ici-bas sur terre, mais ce retour peut être aussi dans l'éternité. Mais juste dans la façon dont je donne. Est-ce que je donne comme cette veuve qui ne s'attend à rien de retour et qui n'espère rien nécessairement de retour, simplement d'avoir accompli ce qu'elle devait accomplir pour son Seigneur et pour l'œuvre de Dieu? Alors, quelle est l'attitude que toi, tu manifestes lorsque tu donnes? Est-ce que tu donnes aussi sans te préoccuper d'un retour éventuel et sans te préoccuper de ce qui va arriver demain? Il y a des gens qui donnent, qui servent, mais en disant « j'ai besoin d'un retour ». J'ai besoin d'un retour qui peut être une reconnaissance publique. J'ai besoin d'un retour qui peut être un cadeau public. Je donne et peut-être espérer en retour qu'on me graisse la patte d'une manière ou d'une autre. Quelle est l'attitude que tu témoignes lorsque tu t'impliques dans le royaume de Dieu, lorsque tu donnes à l'œuvre de Dieu, lorsque tu donnes de ton talent, de ton temps, de tes habiletés? Qu'est-ce qui motive ton don? Est-ce que c'est l'espérance d'un retour quelconque imminent ou futur? Est-ce que c'est l'espérance d'une reconnaissance, d'un diplôme, d'un certificat cette personne a donné si généreusement? Cette personne s'est sacrifiée si généreusement pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est ça que tu espères ou c'est tout simplement de satisfaire ton maître? Autre point. Il va être dit, cette veuve a mis plus que tous les autres. Plus que tous les autres. L'expression plus que, l'expression polis en grec, P-O-L-Y-S en grec, veut dire qu'elle a donné davantage que les autres, qu'elle a donné un montant qui, aux yeux de Dieu, est plus important que les autres. Comment peut-on savoir lorsque quelqu'un a donné plus qu'un autre? Mais c'est parce qu'on a fait une comparaison. C'est parce qu'on a soupesé deux choses et on dit cette chose est plus lourde que l'autre. Lorsqu'on disait « honorer Dieu » dans l'Ancien Testament, et on l'a étudié, c'était cette idée de rendre lourd Dieu. Donc, dans la balance entre nos priorités et les priorités divines, qu'elles pèsent plus lourd dans les choses qui nous tiennent à cœur entre nous et les choses de Dieu, qu'est-ce qui pèse plus lourd? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui a une plus grande priorité pour toi et pour moi? Lorsque Jésus va dire que cette femme a donné plus que les autres, c'est qu'il a nécessairement comparé ce que les riches donnaient à ce que cette femme donnait. Alors laisse-moi te dire, oui, Dieu juge. Et oui, Dieu compare. Et oui, Dieu va qualifier ton don. Qualifier ton don, non pas pour le bonifier, mais il va dire la vraie chose concernant ton don. On a vu tout à l'heure que dire l'ego, dire une chose, c'était appeler les choses par leur nom. Donc Dieu regarde ton don et il ne va pas faire, il ne va pas jouer du violon. Il ne va pas dire « oui, c'était bien alors que ce n'est pas bien ». Dieu ne va pas dire « oui, c'était merveilleux alors que ce n'est pas merveilleux ». Il va appeler ton don par son juste nom. Il va dire concrètement ce que c'est. Si tu as été généreux dans ce que tu donnes en temps, en implication, en talent, il va dire « oui, il est généreux ». Mais si tu es pingre, si tu es radin, on va trouver d'autres synonymes. Si tu es chiche, si tu es égoïste dans ce que tu donnes, Dieu va dire clairement, celui-ci me donne avec égoïsme. Dieu va dire, ce don-là qui m'a été fait avec égoïsme. Et c'est ce qu'il va dire à propos des riches, puisqu'il va dire, les riches ne m'ont donné que leur superflu, ce qui était plus important pour eux, ce qui n'était plus valide pour eux, ce qui ne leur servait à rien, c'est de cela qu'ils m'ont donné. Ils m'ont pas donné de ce qui était important pour eux. Mais cette veuve a donné, et c'était lourd, parce qu'elle a donné de son nécessaire. Elle m'a donné donc plus que tous les autres. Donc Dieu ne va pas mentir par rapport à ce que tu fais. Il ne va pas embellir ce que tu fais. Il va dire la vérité. Lorsqu'il a dit de Job qu'il était un homme intègre et qu'il ne s'en trouvait aucun autre ici-bas sur terre aussi intègre que Job, il n'était pas en train de bonifier la vie de Job. Il n'était pas en train de raconter des histoires concernant Job. Il disait la vérité. Et lorsque Dieu parle de toi, il dit aussi la vérité. Si tu donnes peu, il ne dira pas que tu donnes beaucoup. Si tu donnes avec égoïsme, si tu donnes avec un esprit radin, avec un esprit égoïste, Dieu ne dira pas que tu es généreux. Dieu va dire clairement ce que tu es. Si tu donnes beaucoup, il va dire que tu donnes beaucoup. Si tu donnes peu, il va dire effectivement que tu donnes peu. Et ça, c'est la justice de Dieu. Parce que s'il disait pour l'un, ah, il est pingre, il est chiche, il est radin, et pour l'autre, il est généreux, alors que les choses ne sont pas vraies concernant le généreux, ça serait mentir. Ça serait être injuste. Et notre Dieu ne ment pas, et notre Dieu n'est pas injuste. Donc Dieu, oui, va parler de ton don. Dieu, oui, va parler de ce que tu donnes pour son service. Dieu, oui, va parler de ton implication. Et ce faisant, il va effectivement qualifier ton don. Donc Dieu a le droit de regard, il a le droit de commentaire et il ne se privera pas de commenter ce que tu fais et ce que tu donnes. Dernier point, cette veuve donne plus que tous les autres. Le terme tous les autres, c'est le terme PAS, PAS. Si on traduisait cette expression, la plus juste en français courant, ce serait tous et chacun. Elle donnait plus que tous et chacun. Elle donnait plus que tout un chacun. Et pourquoi c'est l'expression la plus juste? Parce que il y a deux notions qui sont impliquées dans dans ce comparatif-là. Non seulement cette veuve donne plus que chacun des riches, mais cette veuve donne plus que l'ensemble des riches. Donc elle donne plus que chacun des riches pris individuellement, mais même lorsqu'on rassemble tout ce que les riches donnaient, aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu, cette veuve donnait plus que l'ensemble d'entre eux. Ça veut donc dire que non seulement ton œuvre personnelle, ton œuvre bien précise à toi, sera jugée et sera commentée par Dieu, mais aussi l'ensemble du groupe, nous serons aussi jugés et Dieu va aussi commenter ce que nous donnons. Donc Dieu peut commenter sur le frère X de l'Église, mais de surcroît à cela, Dieu va aussi commenter sur l'ensemble des frères X de l'Église. Donc le commentaire et la qualification, la mise à l'épreuve va être non seulement individuelle, mais aussi d'ensemble. Alors Dieu peut qualifier un couple, mais de surcroît à cela, il va qualifier monsieur, puis il va qualifier madame. Il peut qualifier une famille, mais de surcroît à cela, il va qualifier madame, monsieur et chacun des enfants. Et vous pouvez étendre ça à plus large spectre concernant l'ensemble d'une église. Donc Dieu peut qualifier et amener un commentaire sur un individu, mais Dieu va aussi commenter l'œuvre de l'ensemble d'une église. Voilà pourquoi il est donc important de s'interroger en tant qu'individu, mais aussi d'avoir cette réflexion en tant qu'église. Et voilà pourquoi chaque année, on va tenir cette réunion qu'on appelle réunion générale des membres, réunion d'affaires, où on dit voici comment nous nous sommes impliqués cette année. Voici comment on a utilisé l'argent et à quoi on a utilisé cet argent pour l'œuvre de Dieu. Voici les plans que nous avons concernant l'œuvre de Dieu. Mais voici aussi ce que nous avons fait comme action, non seulement concernant l'argent, mais voici quelles sont les activités que nous avons menées. Et il est important en tant qu'Église qu'on ait ces occasions de réflexion sur nous en tant qu'individus, mais sur nous en tant que regroupement, en tant que groupe, en tant qu'Église. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Je sais qu'on a un peu dépassé, mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu qu'on doit se demander, parce que là est le désir de Dieu, à l'instar de cette veuve, Dieu peut-il nous prendre en exemple? Dieu peut-il se servir de ce que je donne, de ma façon de donner, comme un exemple à suivre par les autres? De surcroît à cela, Dieu peut-il prendre en exemple ma vie, même lorsque je suis dans un environnement des plus précaires, même si je n'ai presque rien, même si j'ai très très peu de ressources, Dieu peut-il effectivement se servir de moi et se servir de ma façon de donner, malgré tout, comme un exemple? Est-ce que je donne avec une attente ou est-ce que je donne avec libéralité par rapport à Dieu? Est-ce que lorsque je donne, j'espère quelque chose en retour? Où je donne à Dieu tout simplement pour être impliqué dans le royaume de Dieu. Est-ce que Dieu, en fait, Dieu, quatrième point, Dieu va effectivement regarder ce que tu donnes, regarder comment tu donnes, regarder l'attitude de cœur que tu affiches lorsque tu te donnes, lorsque tu donnes ton effort, lorsque tu donnes ton argent, lorsque tu donnes tes talents, lorsque tu donnes ton temps. Dieu va regarder l'attitude de ton cœur et cela, il va le commenter. Et si ce n'est pas beau, si ce n'est pas bon, il va le dire. Mais si c'est beau, si c'est honorable, il va aussi le mentionner. Et enfin, Dieu juge non seulement l'individu pris séparément des autres, mais il va aussi juger les groupes, les couples, les familles, les congrégations et l'Église dans son ensemble sur ce que nous faisons et comment nous le faisons. Alors prions ce matin. Merci Seigneur pour cette autre méditation où tu nous interroges, où tu nous amènes en fait à nous interroger sur notre attitude lorsque nous donnons, sur le cœur que nous affichons dans notre façon même de donner. Est-ce que je donne avec générosité ou est-ce que je donne avec une pensée quelconque de recevoir? Est-ce que je donne sans attente ou je donne plutôt comme si je mettais de l'argent dans un investissement qui doit m'amener un certain retour? Seigneur, nous savons que tu regardes tout ce que nous faisons et que tu juges tout ce que nous faisons. Et nous serons appelés en jugement par rapport à tout ce que nous te donnons et tout ce que nous t'offrons et comment nous le faisons et comment nous te l'offrons. Alors nous prions, Seigneur, de changer. Nous prions d'être transformés. Nous prions que ces paroles que nous échangeons cette semaine puissent nous amener à d'autres attitudes de don de soi, à d'autres attitudes d'implication, à d'autres niveaux de service même pour tout un chacun. On prie aussi, Seigneur, que si cela te satisfait, si cela est dans ta pensée, de te servir de nous comme un exemple. Dans certains cas, on l'a mentionné plus tôt, de certaines personnes, on apprend quoi faire. D'autres personnes, on apprend quoi ne pas faire. Je prie, Seigneur, que ma sœur, que mon frère, et je prie tout à fait intentionnellement pour moi aussi, Seigneur. Je prie de ne pas être un exemple à ne pas suivre. Je prie, Seigneur, que ma vie soit un exemple qu'il te plaît, à ta guise. Non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire et pour l'avancement de ton œuvre. Je prie que ma vie, Seigneur, puisse servir d'exemple entre tes mains pour modeler ton peuple, pour les amener à avancer davantage et à se donner encore davantage à ton œuvre. Alors, merci pour ta parole ce matin. Merci pour tous nos frères et nos sœurs qui étaient connectés aujourd'hui. Merci de ce que tu nous donnes encore l'occasion d'être actifs dans ton royaume et de s'impliquer. Bénis ma sœur, bénis mon frère, et qu'en toute chose que toute la gloire te revienne à toi, et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alors encore une fois, bonjour à tous, merci d'être là. On va juste saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous depuis nos dernières salutations. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on a prié de façon spécifique pour Haïti. Avec tout ce qui s'y passe actuellement, de très sombres nouvelles ont été annoncées ce matin. Donc, on vous invite à garder ce pays dans vos prières et aussi à prier pour tous nos frères et nos sœurs qui sont là-bas ou qui sont ici et qui ont de la parenté en Haïti encore. Ils ont besoin de nos prières. Donc, bonjour à Sylvie. Oh, Sylvie, je suis content de vous voir. Ça fait quelques jours qu'on ne vous voyait pas le matin. Je sais qu'il y a toute cette transition dans laquelle vous êtes, mais on est content de vous avoir avec nous, Sylvie. Soyez bénie. Bonjour Marie-André, bonjour Farley, bonjour Maggie, que Dieu vous bénisse. Qui d'autre? On monte un peu. Bonjour France, bonjour Patrick. Soyez tous deux bénis, content de vous avoir avec nous ce matin. Bonjour Consuelo, bonjour Jean. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Soraya, sois bénie. Alors, je pense que tous les autres, je vous ai salué. Sinon, je m'en excuse, vos noms ne sont pas apparus. Mais d'ici là, on se retrouve. Bon, ce soir, deux petites annonces. Ce soir, étude biblique avec le pasteur Sergio à 19h, puisqu'on est mercredi. Donc, on vous invite à être là. Et aussi, ne tardez pas à vous inscrire. Les noms rentrent graduellement avec force, même cette semaine. Donc, on vous invite à vous inscrire pour l'assemblée de dimanche en présentiel. Vous avez une annonce juste un peu plus bas dans l'écran Facebook de l'Église, dans la page Facebook de l'Église. Vous avez comment procéder. On vous demande vraiment d'utiliser soit le courriel du secrétariat ou le numéro de téléphone du bureau pour vous inscrire, de vous limiter à ces deux seules voies. Je sais qu'il y en a qui essaient des voies de contournement, la page Facebook de l'Église, Messenger, parfois même d'appeler quelqu'un ou de texter quelqu'un dans l'administration de l'Église. Donc, s'il vous plaît, ni moi, ni qui que ce soit d'autre, vous passez par le courriel de l'Église ou par le numéro de téléphone du secrétariat. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. On se retrouve ce soir avec le pasteur Sergio, sinon demain matin. Et puis toute mon affection à nos frères et nos sœurs d'origine haïtienne, je prie à vos côtés et je prie pour tous vos proches. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie en toutes choses. Soyez bénis. Au revoir tout le monde.